Au départ, il y a Pierre Souvestre et Marcel Alain, quand même. On l'a dit. On n'a pas dit quand ils étaient nés, en fait. Pierre Souvestre est né en 1874 et Marcel Alain est né en 1885, et donc son cadet d'une dizaine d'années. En fait, Alain avait fait des études de droit plutôt merdiques. Et il ne savait pas trop quoi faire, ceci, cela, il branlotait comme ça, il s'est fait foutre à la porte. Enfin, ça, c'est ce qu'il raconte après, encore une fois, on revient à ce qu'on disait sur la vérité et la légende. Alors parlons de la légende. Alain raconte qu'il s'est fait foutre à la porte de chez lui par son père, qui lui a dit « t'es qu'un branleur ». Enfin, il ne lui a pas dit comme ça, mais il l'a foutu à la porte de chez lui. Le pauvre Alain, il ne savait pas quoi faire. Il est rentré au service de Pierre Souvestre, qui était journaliste, écrivain, journaliste, il écrivait des tas de choses, et Marcel Alain va devenir son secrétaire et va devenir aussi son associé en écriture, c'est-à-dire qu'il va écrire des choses pour lui. Pierre Souvestre, on est en 1901. En 1901, bon, bah, Pierre Souvestre, né en 1874, a 26 ans. 27 ans. Donc c'est un jeune homme. Là, Alain n'a pas encore commencé à travailler avec lui. Mais enfin, Pierre Souvestre a entamé une collaboration avec Henri Desgranges. Henri Desgranges, c'est le fondateur de l'Auto, du journal L'Auto, qui deviendra L'Équipe. Et Henri Desgranges, outre le fait qu'il a fondé l'Auto, a aussi créé le Tour de France. Hein. Et d'ailleurs, il existe le mémorial Henri Desgranges sur le... Bon, c'est un très très grand nom de la course cycliste et de la presse en général, la presse sportive a fortiori. Donc il écrit dans l'Auto, il écrit des tas de choses, et Henri Desgranges lui commande à un certain moment, bien plus tard, on est en 1909, et donc à ce moment-là Alain est rentré au service de Souvestre, et il lui commande un feuilleton. Et Souvestre et Alain, donc sous leurs deux noms, hein, vont publier un feuilleton qui s'appelle Le Rour, qui a été régulièrement réédité, enfin peut-être pas régulièrement, mais qui a été réédité. Un feuilleton, Le Rour, L-R-O-U-R, qui paraît dans l'Auto de janvier à mars 1909, avec beaucoup, beaucoup de succès. À telle enseigne, et ça, c'est plutôt drôle, à telle enseigne que le concurrent de l'Auto, qui s'appelait Le Vélo, demande à Souvestre et Alain, il dit « c'est formidable ce que vous avez fait, tout ça, est-ce que vous ne pourriez pas me faire la même chose ?» Alors Souvestre et Alain, ils disent « ouais, on veut bien, mais enfin, on ne veut pas se fâcher avec Henri Desgranges, qui est quand même notre patron. » Donc ils vont effectivement faire un roman pour le Vélo, sous pseudo, qu'ils appellent Le Four, qui est un pastiche du Rour, et qui a encore plus de succès que Le Rour, à telle enseigne qu'Henri Desgranges vient voir donc le patron de l'Auto, vient voir Souvestre Alain, enfin Souvestre en l'occurrence, parce que c'était vraiment lui son correspondant, et lui dit « regardez ce qu'ils ont fait dans Le Vélo, vous devriez vous en inspirer quand même. » Bon, bref, fort de ce succès, Desgranges commande à Souvestre, donc, puisque c'était vraiment lui son interlocuteur, commande à Souvestre deux romans policiers. Il y en a un qui paraîtra dans l'Auto, qui s'appelle L'Empreinte, qui paraît en janvier-février 1910, et l'autre qui s'appelle L'Art Royal d'A, qui paraît de juillet à septembre 1910 dans Comédia, qui est une revue plus chic, enfin qui n'est surtout pas spécialisée, mais qui est une revue assez chic, revue littéraire, qui était aussi dirigée par, enfin, qui appartenait également à Desgranges. D'ailleurs, pour la petite histoire, dans L'Empreinte, et d'ailleurs aussi dans la Royal d'A, il y a déjà Juve et Fandor. Donc c'est, Fantomas n'existe pas encore, mais on a, si vous voulez, la matrice, et d'ailleurs L'Empreinte, on le verra, sera réutilisé, mais j'y reviendrai. Donc voilà, L'Empreinte sort toujours avec beaucoup de succès en janvier février 1910. Il y a une campagne de pub très importante qui a été menée par Henri Desgranges pour lancer le feuilleton, L'Empreinte. Et cette campagne de pub qui était spectaculaire a attiré l'attention du directeur du Matin, qui s'appelait Bruno Varilla, qui aura d'ailleurs une fin assez triste, puisqu'il a été un ultra-collabo bien plus tard. Hein. Mais enfin bon, là pour l'instant c'est le directeur du Matin qui est très impressionné par la campagne de publicité. Au début, il voit pas que c'est une campagne de pub, parce que la campagne de l'Auto, qui était quand même un journal, disait « bientôt des révélations spectaculaires », etc., etc. Le directeur du Matin, qui était un journal plutôt à sensation, se dit « comment ? Ils ont des révélations spectaculaires que moi, je connais pas », etc. Donc il va voir Desgranges qui lui dit « non, c'est une campagne de pub pour un feuilleton », donc ça l'intéresse. Et donc c'est lui, c'est Bruno Varilla, qui parlera de Souvestre et Alain à Fayard, l'éditeur Fayard, et qui à ce moment-là mettra donc en contact Souvestre avec Joseph Artem Fayard, dont je vais parler maintenant. Courte parenthèse, qui est Fayard ? Fayard est la maison qui domine le roman populaire à ce moment-là, c'est la grande maison de littérature populaire du début du... Enfin, mettons des années 1880 à presque jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Mais enfin, à ce moment-là, elle domine la scène. C'est une maison qui a été créée en... Je vais vous dire ça tout de suite, dès que je trouve mon papier. Elle a été créée en 1855 par un type qui s'appelait Jean-François Fayard, mais enfin, qui prendra comme nom d'éditeur, qui prendra Artem, et qui crée des tas de revues, des revues très populaires, puis des romans par fascicules. Comme la plupart des éditeurs de l'époque, il fait une paire de faillites, il revient dans le circuit, tout ça. L'édition à la fin du 19e a vraiment beaucoup de difficultés, que ce soit l'édition littéraire ou l'édition populaire, beaucoup d'éditeurs cool, pas Fayard. Fayard, au contraire, progresse, se démultiplie, rachète le fonds Dentu. Le fonds Dentu, c'est Gaboriau, c'est Montépin, je crois. Donc, c'est quand même des bonnes affaires. Fayard a une relative aisance financière quand d'autres éditeurs tirent beaucoup plus la langue. Simplement parce que Fayard a eu ce coup de génie, si je puis dire, mais qui aujourd'hui semble vraiment... une banalité, c'est-à-dire que Fayard, il s'est dit, voilà, les bouquins, ils sont trop chers. Les gens ne peuvent pas acheter des livres, les livres, ils sont trop chers. Donc moi, je vais faire tout mon axe, enfin, lui, c'est Artem Fayard père, mais surtout son fils, qui va arriver dans la maison dès les années 1890, hein, dans ces eaux-là. Le père et le fils, donc, vont être très vigilants sur la politique de prix qu'ils vont... Qu'ils vont mettre en œuvre en disant voilà, les livres sont trop chers, faisons des livres le moins cher possible. Donc il fait ça, enfin je veux dire, ça a été un des éditeurs qui a le plus regardé ce que techniquement, même industriellement, on pouvait faire pour baisser le prix des livres. Et c'est Artem Fayard, donc le fils, puisque le père meurt en 1889. En 1895, meurt en 95, c'est donc son fils Joseph Arsène qui lui succède, qui est aussi un petit génie également, qui va même du temps de son père, il avait eu il s'était dit bon, ben, on va faire des éditions populaires d'auteurs modernes et populaires de notre temps. En particulier, c'est lui qui fera une édition des œuvres complètes de Daudet, qui est un écrivain très qui avait beaucoup de succès à l'époque, mais dans des livraisons très très peu chères et qui aura un succès colossal. Et Artem Fayard, Joseph Artem Fayard, donc le fils, va créer en 1904 ce qui va être une révolution, ce qui est l'ancêtre du livre de poche, qui est La moderne bibliothèque, 1904, qui sont des ouvrages à 95 centimes, quand les ouvrages de littérature générale étaient au moins 3 francs à l'époque, donc c'est peu cher, qui sont des... Vous en avez sans doute déjà vu, ça a eu des succès un succès incroyable. Ils faisaient des tirages entre 40 000 et 100 000 premiers tirages, alors qu'en littérature générale, on tirait 4 000, 5 000, si vous voulez. Donc, et c'est l'ancêtre du livre de poche, puisqu'il il a proposé donc des ouvrages à prix donc modique, dans un format quand même assez grand. C'était des formats comme ça, sur deux colonnes à l'intérieur, mais quand même assez chiquement fait. Hein, c'était pas des fascicules, c'était vraiment des livres. Et il va publier Paul Bourget, il va publier Maurice Barrès, mais il va aussi publier donc les grands, enfin les Maurice Barrès, je viens de le dire, Daudet donc et d'autres. Et il a eu un succès foudroyant et considérable, qui a été d'ailleurs imité par la plupart des autres éditeurs à l'époque, Flammarion Siemi, Ollendorf et d'autres éditeurs. En 1905, l'année d'après, il crée le livre populaire à 65 centimes, qui, donc justement, on en a un exemple ici, puisque c'est la collection qui va abriter Fantomas, la couverture, celle que je vois là. C'est une couverture du roman populaire qui sont très peu chères, à 65 centimes, alors que ce sont quand même des ouvrages qui sont forts, hein, parce que les Fantomas, on l'a dit, on l'a évoqué tout à l'heure, ce sont des bouquins de 400 pages. Hein, c'est pas rien. Et puis écrit microscopique à l'intérieur. Hein. Faut vraiment s'appeler Champollion pour réussir à voir un truc. Hein. Et comment ? C'est pas toujours très bien imprimé. Ça, c'est ce qu'on imprimait. Enfin bon. Un peu le papier était pas terrible. Il vieillit. Ouais, mais enfin bon, c'est un aparté. Mais enfin, quand même, même en édition populaire, on se rend compte qu'au 19e, on avait des papiers qui tiennent très très bien, en fait. Hein. Enfin bon. Bien. Alors, donc, revenons à Sylvestre Alain, maintenant qu'on a brossé rapidement le portrait de ce que pouvait être Fayard au début du XXe, qui est donc la maison qui domine le roman populaire en France. Et donc Sylvestre reçoit, Fayard reçoit Sylvestre. Fayard, je ne sais pas si lui-même a lu le Roure ou a lu l'Empreinte, mais en tout cas, il y a quelqu'un chez lui qui l'a lu et qui a remarqué, qui a même indiqué à Artem Fayard que c'était de la littérature assez dégourdie, qui pourrait peut-être s'y intéresser, si bien que Fayard va proposer à Sylvestre un contrat presque en blanc. Il lui dit, voilà, on va signer un contrat pour une série de... Alors, je l'ai... Ouais, au début, c'était une série de 24 volumes sur lequel l'auteur s'engage sur 24 volumes, mais l'éditeur sur 5. Je m'explique. C'est-à-dire que l'auteur s'engage d'en écrire 24, mais l'éditeur dit, au bout de 5, si ça ne marche pas, je m'arrête. Hein ? Bon, je vous délivre de votre truc. Ce qui, en soi, n'est pas idiot. Hein ? Mais en fait, c'était pas un si mauvais contrat que ça, mais cela dit, il lui fait signer un contrat pour 24 romans policiers avec des personnages récurrents. C'était quand même une contrainte, mais il n'y a pas de titre, il n'y a rien, on ne sait rien d'autre. C'est un contrat, finalement, toutes les conditions sont posées. On dit, voilà, c'est une série de romans policiers de 24 volumes, un par mois, 65 centimes. Il faut que ça fasse de 25 000 à 28 000 lignes. Alors, j'ai recalculé, ça fait quand même 600 feuillets. Hein. 600 feuillets comme on les considère dans l'édition, c'est-à-dire des pages 21, 29, 7, qui contiennent 1500 signes. C'est-à-dire, grosso modo, une page normale avec un interligne 1, 1,5 quand on ne se force pas. Hein. 600 feuillets, c'est pas rien à cracher une fois par mois. Et puis, il le paye 2000 francs par volume, enfin par livraison, enfin par tome, et pour 50 000 exemplaires. Et au-delà de 50 000 exemplaires, il touchera 3 centimes par exemplaire, ce qui correspond à un tout petit peu moins de 5%, ce qui, dans le roman populaire, était la norme à peu près. Donc là, il n'y a pas... En littérature générale, on est plutôt à 10, mais là, on est à 5, 4,5, 5, ce qui était à peu près ce qui se faisait à l'époque. Bon, très bien. Donc c'est un avaloir, finalement, un avaloir de 2000 francs, qui est quand même une somme, c'est une somme. Sachant que ça, c'est un contrat que Fayard signe avec Souvestre. Par ailleurs, Souvestre a signé un contrat avec Alain, dans lequel, finalement, il lui paye 500 francs. Hein, donc, mais ils font partage à demi sur les droits d'auteur, après, au-delà de 50 000. Bon, c'était quand même assez copain, donc ce sont des choses qui évolueront avec le succès et dans dans la suite des événements. Donc, ok, donc il signe ce contrat. Donc, ce contrat, on est en janvier 1910. Et ils se mettent au travail. Alors, ils bossent, tout ça, et ils écrivent deux romans. Deux romans qui présenteront donc à Fayard, sachant que le troisième, qui s'appelle Le mort qui tue, reprendra l'intrigue de l'empreinte. C'est-à-dire que ce qui était l'empreinte va devenir le mort qui tue sur Fantômas. Enfin, deviendra un Fantômas. Alors, ils viennent présenter leur projet à Fayard, enfin, plus que leur projet à ce moment-là, puisque les livres sont déjà écrits. Alors, après, bon, c'est Alain qui raconte ça ensuite, donc quelle est la part de la légende également. Mais enfin, il y a une anecdote assez célèbre, qui est celle de Souvestre et Alain qui vont voir Fayard, et ils prennent le métro, et puis ils se disent, bon, notre méchant, comment on va l'appeler, ceci, cela, titi-tata. Bon, ils sont sur la route, hein. Appelons-le Fantomus. Ah ouais, Fantomus, c'est vachement bien. Alors il écrit Fantomus, mais comme ils sont dans le métro et que ça bouge un peu, c'est pas très très bien écrit. Fayard prend le papier et il lit Fantomas. Et il dit, ah, Fantomas, c'est très très bien. Pouf. Fantomas. Mais au départ, c'était Fantomus. Dit Alain. Je ne sais pas si c'est vrai. La deuxième anecdote qui était le même jour, c'était sur la couverture. Qu'est-ce qu'on va prendre comme couverture? Je ne sais pas trop, dit Fayard. Je sais pas, les autres n'ont pas vraiment d'idée. Écoutez, dit Fayard, regardez donc dans ce carton de publicité. Vous verrez s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Et fait, il tombe sur une affiche pour les pilules pink pour les personnes pâles. Et c'est ça. Hein, c'était ce personnage qui est en train de balancer des tas de pilules sur la ville de Paris, un personnage assez pâle. Et il se dit, c'est ça qu'il faut. Et donc, ils vont faire plus que s'en inspirer, dit la légende encore une fois, puisqu'ils vont prendre exactement le visuel de l'affiche, enfin, le personnage et la silhouette dominant Paris. Ils remplacent les pilules par un poignard, quand même. Et voilà, et youpi, c'est parti, c'est la première couverture de Fantomas, sachant qu'après, ce sera Starace qui fera avec un talent extraordinaire, mais de visuel, un talent visuel et une patte incroyable qui fera d'ailleurs, je pense, beaucoup pour. Je sais pas si ça fera beaucoup pour le succès de Fantomas, mais en tout cas, ça fera rien contre. Hein. Parce que c'est vraiment des œuvres d'art. On regarde ça, c'est très spectaculaire, c'est très très beau. Enfin bref. Voilà. Donc le 10 février 1911 paraît le premier Fantomas et ils vont en cracher un par mois. Un par mois des bouquins de 440 pages chacun. Donc comme on l'a dit, des gros livres. Jusqu'en septembre 1913, qui verra la fin de Fantomas. Alors, comme on l'a dit ci-dessus, était-il capable à deux de fournir autant de copies sans débander, si je puis dire, sans utiliser de nègres? Probablement pas. Il est possible et probable, disent les exégètes, que certains ont été supervisés par. Souvestre et Alain, mais n'ont pas été vraiment écrits par eux.
Sachant que quand ils terminent la série de Fantomas, ils ont une nouvelle série
Ah oui, Nase en l'air.
Nase en l'air.
Ouais.
Donc là, ça fait une quantité de romans qui
Ah
sont
oui,
vraiment.
tout à fait. Ouais. C'est vrai. Alors, ils avaient une manière de travailler, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est vrai aussi, qui était assez spéciale. C'est-à-dire que quand ils se réunissaient pendant 3 jours, ils se réunissaient chez Souvestre. Souvestre était assis à son bureau, Alain était sur un canapé, et blabla, ils discutaient. Ils causaient, c'est de bâtir à la fois l'intrigue, d'abord l'intrigue, et puis ensuite, ils découpaient cette intrigue en chapitres. Mais vraiment, vraiment un vrai découpage. Et puis ensuite, ils tiraient au sort les chapitres et chacun repartait avec ses chapitres à écrire. Donc ça veut dire que quand même, le boulot préparatoire qui avait été fait avant était quand même très, très achevé, hein, pour que chacun... Et puis ensuite, ils ne se relisaient pas forcément. Tout partait chez l'imprimeur. Pouf, 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 c'était fait. D'où le côté un peu foutraque qu'il peut y avoir de temps en temps. Bon, ensuite, ils relisaient quand même sur épreuve. Ils relisaient sur première. Ils corrigeaient les choses. Ils unifiaient. Et comme disait Étienne ci-dessus, pour s'y retrouver quand même, ils avaient des codes, un code. Pour savoir qui avait écrit l'un et qui avait écrit l'autre, il y en a un qui utilisait le mot « cependant » et l'autre qui utilisait le mot « toutefois ». Hein? Donc là, c'était un signe de reconnaissance. C'est Alain qui raconte ça et également. Enfin, on a quand même un exemple de gémelléité littéraire qui est quand même assez rare. Hein? C'est-à-dire qu'ils étaient presque totalement interchangeables. Probablement qu'ils étaient à la fois interchangeables et formidablement complémentaires. Hein? Comment ? Oui, c'est vrai. Et voilà, jusqu'à la mort de Souvestre, qui est mort d'une congestion pulmonaire à la veille, je crois, de la Première Guerre mondiale, hein, qui de toute façon aurait interrompu probablement, comme à peu près tout s'est arrêté à ce moment-là. Enfin bon, et Alain a écrit des romans patriotards, comme tous les écrivains populaires entre 14 et 18, mais c'est une autre histoire. Voilà, c'est fini.
Et c'est formidable, nous avons même le temps pour des questions.
Le problème, oui. Oui, mais le problème, c'est que... commencent à coter, ils cotent, et deuxièmement, ils sont très rares en bon état. Mmh. Ils sont très fragiles. Ce sont des livres très fragiles, parce que d'une part, la couverture n'est pas une couverture cartonnée, c'est une couverture en papier, en fait, hein, qui s'abîme très facilement. Le papier a vieilli aussi, il est assez cassant. Donc, les trouver en bon état, c'est quand même assez rare. Et c'est cher. C'est cher. Alors, sur les quais, est-ce qu'on peut en trouver ? Peut-être pas sur les quais, mais chez les bouquinistes spécialisés, oui. Hein, oui. Ça a eu quand même des tirages incroyables. Hein, énormément. Je crois que j'ai lu dans une monographie d'édition que les tirages totaux de Fantomas en France, à la veille de la Première Guerre mondiale, s'élevaient à 5 millions d'exemplaires. Bon, d'accord, il y a eu, combien on a dit, 32. Enfin, quand même, ça veut dire que c'est des succès.
Ah oui.
Ça a été un choc. Hein.
Ça fait 150 000, grosso modo.
C'est-à-dire que Fayard, quand il a fait le lancement de Fantomas, l'a fait avec des affiches, avec un énorme point d'interrogation. Non, c'était plutôt les Fayard, je crois. Non, enfin, bon, avec un point d'interrogation. Ouais. Mais enfin, bon, bref, il a fait quand même une campagne d'affiches avec un personnage très visuel. Personne n'avait jamais lu un truc pareil. Alors que, bon, on avait l'habitude quand même de séries avec des héros récurrents. Donc on a parlé d'Igomar, mais il y avait eu Arsène Lupin quelques années avant, en 1905. Bref, le héros, si vous voulez, existait, mais là on est un anti-héros qui n'a pas de visage. C'était très particulier. Ça a eu un succès foudroyant immédiatement, et comme on l'a dit, c'est un cas très rare, très très rare dans la littérature, où on a une série romanesque qui emporte l'adhésion à la fois du grand public et des intellectuels. Très rare. Il y a eu Maigret après et San Antonio. Au XXe siècle, je ne connais pas des masses d'autres. Il y en a probablement d'autres, hein, mais avec ce type de succès-là, c'est quand même très rare.
Alors.
Annie. C'est l'histoire du troisième tome.
Le mort qui tue.
Le fait de reprendre un livre qui avait déjà été édité chez un autre éditeur, est-ce que ça ne posait pas des problèmes?
Il a été publié dans la presse. Il a été publié dans l'Auto. Et je pense qu'il avait dû être publié, mais... chez un éditeur, mais si avec contrat, mais chez genre la bibliothèque de l'Auto ou un machin comme ça. Donc vraiment chez un.
Il n'y a pas de problème de priorité pour prix.
Non, en l'occurrence, non.
Je crois qu'il y a.
Oui.
Bernard.
Oui. Est-ce qu'ils ont été réédités depuis
Les Fantomas? Oui. Oui. Alors pas forcément de façon intégrale. Il y a eu des versions intégrales, mais il y a eu des versions coupées. Parce que, comme on l'a dit, comme disait Michel ci-dessus, pardon, c'est long. Et il y a eu des tas de rééditions dans lesquelles ça a été tronqué. En particulier, Francis Lacassin avait présidé à la réédition en 12 tomes, je crois, des 12 premiers, en pocket, dans les années 70. Qui ont été, qui certains sont en version sont intégrales et d'autres sont coupés. Résumés. Et pour la petite histoire, celui qui a coupé et résumé, c'est Léo Malheur. Voilà. Sachant que l'édition bouquin, je pense qu'elle est intégrale. Voilà. Mais l'édition bouquin que l'on connaît, ne prend... C'est très, très étonnant. C'est très étonnant parce qu'il commence au 13e. C'est du 13 au... Parce qu'à l'époque, quand il était paru, les bouquins de chez Pocket existaient encore. Donc Guy Scholler, le directeur de bouquins, et Lacassin, qui à la fois était responsable de l'édition de Pocket, mais aussi responsable de l'édition chez Bouquins, il dit, c'est très con de rééditer les Fantomas qui sont disponibles, ce qui n'est pas complètement illogique en même temps, rééditons ceux que l'on ne peut pas trouver, c'est-à-dire ceux de la suite en deux volumes qui sont à l'entrée en démonstration. Et le temps est passé, Scholler est parti de chez Bouquins, Lacassin également, et les gens de chez Bouquins ont oublié qu'il y avait ce gisement. Mais je crois que c'est en route.
Non.
Ouais, c'est en route. Je ne sais pas quand, hein. Mais c'est en route.
L'édition chez Robert Laffont, c'était une édition complète, l'édition relié rouge.
Non, il y a 11 volumes. Il y a 11 volumes, c'était des.
Je ne sais pas. C'est ceux-là dont on parlait.
Ouais, c'est ça.
C'était, Étienne, excuse-moi.
Les 22 premiers. Il y en avait deux par volume.
Ouais.
Et ça s'arrête à 11.
Et ils ont été coupés ou c'est intégral,
tu sais.
Écoutez,
c'est là que Léo Malheur
revient. C'est là, oui, c'est ceux-là alors qui ont été repris.
Il y a 3 volumes, mais il commence au numéro 20.
Oui, c'est ça.
Et le 20 apprend le
2. Oui, c'est ça. C'est pas 12 alors, c'est 20. Ouais.
Il y avait une réédition partielle en deux poches, les trois permanents.
Tout à fait. Ouais, moi, j'ai lu un livre de poche. Le 1, d'ailleurs, il doit être complet, j'imagine. Il doit être parce que c'est un gros machin. Il est gros.